France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Léa Capuano, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard et Antoinette Benoît, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec notre partenaire, le journal Le Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Rendez-vous annuel entre Européens et Américains sur les questions de défense. La conférence de Munich sur la sécurité s'ouvre aujourd'hui. L'avenir de l'Ukraine que le président Trump semble vouloir négocier directement avec les Russes sera au cœur des discussions, tout comme la sécurité du continent. Comment perçoit-on la situation du point de vue de l'Europe centrale et en particulier de la Pologne, qui assure la présidence de l'Union et qui a fait du réarmement une priorité? Nous en discuterons avec nos invités. Amélie Zima, docteur en sciences politiques, responsable du programme Sécurité européenne et transatlantique de l'IFRI, et Jacques Rupnik. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Je précise que Amélie Zima nous rejoint dans quelques instants. Jacques Rupnik, historien politologue, directeur de recherche émérite au CERI à Sciences Po. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Ludovic Lamant.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart. Vos derniers reportages nous plongent au cœur de la crise politique et démocratique que traverse la Roumanie depuis l'annulation le 6 décembre de l'élection présidentielle. Une décision prise à la veille du second tour suite à des accusations d'ingérence et des soupçons de conditions inéquitables entre les candidats. Calin Georgescu, candidat indépendant ultranationaliste, qui a fait sa campagne en partie contre l'aide apportée à l'Ukraine, était arrivé en tête avec 23% des voix. Sauf que l'annulation de l'élection, considérée par beaucoup en Roumanie comme mal gérée et mal justifiée d'un point de vue politique et juridique, a plongé le pays dans l'incertitude. Des manifestations se tiennent régulièrement depuis le 6 décembre, organisées par les partisans de Calin Georgescu, mais aussi d'autres partis d'extrême droite. Que dénoncent-ils exactement? Quels sont les mots d'ordre de ces rassemblements?
Alors c'est ça qui est très troublant quand vous arrivez à Bucarest, c'est que vous voyez des manifestations d'extrême droite dont le mot d'ordre, c'est la démocratie. C'est le respect de la démocratie. Donc il y a déjà quelque chose, on arrive, voilà, c'est un pays de l'Union Européenne et vous êtes un peu scotché avec des... Alors moi j'ai parlé à des jeunes étudiants qui appellent au respect de la Constitution, etc. Donc c'est un, voilà, première approche assez déstabilisante quand on y est.
Donc eux, ils réclament la reconnaissance des résultats du premier tour du 6 décembre.
Exactement. En fait, ils estiment que en fait, l'annulation du deuxième tour ne s'est pas fait sur des bases constitutionnelles. Alors, il faut se souvenir de ce qui s'est passé exactement, c'est-à-dire au dernier moment, dans l'entre-deux-tours, les autorités ont déclassifié des documents des services secrets qui montraient des ingérences sur l'élection et la manière dont la campagne s'était déroulée. La conclusion de ce rapport, c'était de dire que le jeu n'avait pas été fait de manière égale pour tout le monde.
Et ça se jouait en particulier sur la plateforme, le rôle de la plateforme
de TikTok.
TikTok,
exactement.
Pour préciser, avec beaucoup de comptes ou de faux comptes en faveur de Calin Georgescu qui ont été activés très très...
Voilà, il y avait beaucoup de comptes qui ont été identifiés, qui étaient inactifs pendant des années et qui soudainement, deux mois avant et un mois avant la campagne, se sont mis, sont entrés en ébullition et ont propagé. Alors, ils faisaient pas exactement campagne pour Georgescu en tant que tel, mais reprenaient, par exemple, ses slogans, ou y compris dans les fils de commentaires, où on avait énormément de commentaires qui reprenaient des éléments de langage du candidat, mais sans être officiellement affiliés. Évidemment, ça pose des questions démocratiques énormes, mais beaucoup des gens que j'ai rencontrés à Bucarest, eux, étaient très déstabilisés sur le fait que le rapport des services secrets en tant que tel était ne fléchait pas directement, notamment la Russie. En fait, il y a des cas d'ingérence, mais en fait, ils estiment que pour l'instant, les documents déclassifiés sont trop faibles pour justifier un événement aussi énorme, qui est quand même l'annulation d'un deuxième tour d'une élection. Et les choses se compliquent un peu si on observe en plus que les deux partis qui sont au pouvoir, donc le PSD et le PNL, donc social-démocrate et Parti national libéral, qui occupe donc le chef de l'exécutif et la présidence de la République, avait perdu le premier tour de l'élection. Donc ça donnait aussi l'impression que, en fait, l'annulation de l'élection était aussi décidée parce que leur propre candidat n'était plus représenté au second tour.
Est-ce que cette impression que vous recueillez auprès de plusieurs personnes de la société civile, notamment des journalistes d'investigation roumains, est-ce qu'elle est étayée aujourd'hui ou est-ce qu'elle est comme ça une espèce d'énorme doute qui commence à s'instiller dans les esprits? Mais est-ce qu'on a des éléments qui permettent vraiment de dire qu'il y aurait eu manipulation dans l'entre-deux tours?
Alors, qu'il y a eu des manipulations, le rôle de TikTok et tout, il y a énormément d'enquêtes qui sont sorties par plein de médias indépendants roumains qui sont absolument passionnantes. Les services Pixel du Monde aussi ont publié des choses qui sont très impressionnantes sur le fait qu'il y a eu de l'ingérence. Mais encore une fois, le fait qu'il y ait une ingérence étrangère de la part d'un État, en fait, c'est vraiment ça le point, n'est pas établi pour l'instant. Et c'est là la difficulté, c'est-à-dire il ne s'agit pas du tout de dire qu'il n'y a pas eu d'ingérence russe, qu'il n'a pas profité de ce chaos pour faire pousser des candidats, etc. Mais encore faut-il avoir des éléments pour pouvoir prendre une décision aussi énorme.
C'est ce que vous dit, par exemple, une avocate, Sylvia Uskov, qui, alors elle vous précise, elle y tient à dire qu'elle n'est ni une électrice ni un soutien de Georgescu, mais elle vous dit qu'elle estime, en tant qu'avocate, en tant que citoyenne, que cette annulation était illégale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Roumains, de Roumaines qui sont dans l'attente de la part des autorités de preuves un peu plus solides sur avoir pris cette décision d'annulation.
Exactement. En fait, il y a à la fois les manifestations d'extrême droite dont on a parlé au tout départ de cet entretien. Et ensuite, si vous allez voir la société civile, les ONG, j'ai été voir quelques eurodéputés indépendants, etc. Et il y a vraiment un malaise, mais qui est profond et qui, moi, m'a vraiment très impressionné, qui est qu'à la fois, il y a une forme de... Bon, les gens sont quand même rassurés du fait que Georgescu n'est pas devenu chef de l'État, parce que, on va sans doute en parler, c'est un profil extrêmement inquiétant. Mais en même temps, il semble bien que les deux partis établis qui se partagent le pouvoir depuis 30 ans en Roumanie ont joué un jeu dangereux et qui risque, au final, d'avoir un effet boomerang et de renforcer encore l'extrême droite pour la prochaine échéance, qui est maintenant l'élection présidentielle de mai.
Ce lundi, Ludovic Lamont, on apprenait la démission du président actuel Klaus Iohannis afin, je cite, d'épargner à la Roumanie et aux citoyens roumains une crise. Est-ce que cette démission était une revendication des manifestants? Est-ce qu'elle peut apaiser la situation?
Alors, apaiser la situation, moi, je me garderais bien de faire des pronostics parce que tout ça est tellement fragile et extrêmement éruptif. Mais c'était une revendication, c'était une des personnes qui cristallisait un peu le fait qu'il reste au pouvoir alors qu'il avait perdu l'élection était clairement un point dur. Après, j'ai vraiment l'impression que là, on est dans une séquence. Maintenant, ça va être la question du Premier ministre, qui est de l'autre parti, du PSD, et il est question maintenant d'une motion de censure contre le gouvernement que pourraient lancer les partis d'extrême droite. Donc on voit bien ce qui joue, c'est vraiment une reconfiguration de tout le paysage politique, et je pense que tant qu'on n'est pas avec le listing des candidats pour la présidentielle de mai, on va être dans un moment d'ébullition et d'incertitude.
Alors, parmi les candidats de novembre dernier, il y avait donc Calin Georgescu, dont on a dit qu'il était arrivé en tête avec 23% des voix. Et pour comprendre le succès de ce candidat, vous vous êtes rendu dans la région de Bukovine. C'est au nord-est du pays où Georgescu a réalisé son score le plus élevé. Et si on veut être précis, dans la région de Bukovine, si on additionne ses voix avec celles du parti AUR, qui est un autre parti d'extrême droite plus ancré historiquement, on obtient 46% des voix. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous décrire en quelques mots la géographie physique et sociale de la région de la Bukovine?
Alors on est très près de plein de frontières déjà. L'Ukraine est vraiment pas loin. On est à quelques 80 kilomètres de l'Ukraine, de la République de Moldavie aussi. Donc on est vraiment dans une région frontière, extrêmement rurale. C'est très connu pour un fait touristique assez génial, que c'est très beau, des églises orthodoxes qui sont peintes au 15e, 16e siècle à l'extérieur des façades. C'est bien que vous avez des espèces de peintures sublimes, d'icônes, qui sont dans la campagne de Bukovine. Donc, territoire très rural et délaissé aussi par rapport aux grandes villes de Roumanie. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement quand on parle aux gens là-bas. Et puis, par ailleurs, on est sur une zone, effectivement, où, enfin, je l'ai dit tout à l'heure sur le rapport à l'Ukraine, qui est vraiment, c'est très sensible, c'est une question qui est très sensible sur le lien à l'Ukraine, etc.
Alors, on va y venir, mais je voulais vous faire parler aussi de l'importance de la forêt dans cette région, de l'exploitation de la forêt, parce que vous rencontrez un député, Lucian Florin Pouchascu, qui est un député du parti AUR, donc l'autre parti d'extrême droite, en Roumanie, et qui vous dit que parmi ses préoccupations, ses priorités, il y a, selon lui, la question de la gestion de la forêt. Qu'est-ce qui pose problème, selon lui, dans l'exploitation de la forêt?
Oui. Alors, la déforestation, c'est une grande question, c'est énorme. Hein. En Roumanie, il y a vraiment énormément d'ONG, par ailleurs, qui alertent sur cette question depuis longtemps. Mais là, j'étais vraiment très surpris. C'est-à-dire, on commence l'échange depuis Suceava, j'arrive du train de nuit, encore pas complètement réveillé. Et il me lance tout de suite sur la forêt, le rapport à la forêt, avec limite un discours presque écolo, quoi, sur la protection, le fait qu'il faut vivre avec la nature en dehors, etc. J'ai un peu, voilà, et progressivement, je comprends que il y a vraiment tout un discours de ces extrêmes droites là-bas qui consiste à dire vraiment les matières premières, la nature, le sol pour les Roumains. Et ils pointent du doigt notamment des groupes étrangers, alors autrichiens, allemands, qui travaillent et exploitent la forêt alentour, puisque, et j'imagine, mais ça j'ai pas travaillé dessus, mais que c'est pareil aussi en Transylvanie, etc. Mais du coup, ça fait partie c'est un des gros arguments là-bas, de dire que il faut pas laisser les groupes étrangers, alors européens en l'occurrence, mais étrangers, exploiter la forêt. Il y a tout un truc sur le profil de Georgescu, qui est aussi sur le rapport à l'eau, le rapport à, voilà, à la terre, à qui détient. Il y a un côté un peu New Age, comme ça.
Un peu mystique.
Un peu mystique, ouais. Alors, j'emploie peut-être des mots qui sont maladroits si on les rapporte. J'ai cru comprendre qu'il est relié, du coup, à certains courants, sous Ceausescu aussi, où il pouvait y avoir ce genre de propos. Mais c'est assez surprenant. Et c'est là où je trouve le cas de Georgescu, ce candidat qui surgit d'extrême droite, qui fait 25% à la présidentielle de nulle part, c'est à la fois un schéma international en ce moment, on a l'impression, bon, le candidat d'extrême droite qui surgit et qui va gagner à la fin, on commence à connaître, et en même temps, quand on y va, c'est pas du tout les arguments auxquels on s'attend. Alors, il y a des points communs, hein, sur le côté très masculiniste, comme ça, et tout, mais là, vraiment, le truc de la forêt, notamment, m'a surpris, ouais.
Ce qui est certain, c'est que ça résonne avec un discours ultranationaliste, souverainiste, oui, que porte Georgescu. Et vous l'évoquiez, la frontière avec l'Ukraine n'est pas très loin. Il faut expliquer que cette région de la Bukovine, elle a été coupée en deux, si on peut le dire comme ça, en 1949. La frontière entre la Roumanie et l'Ukraine passe au milieu de cette région. Il y a aujourd'hui une minorité roumaine, une communauté roumaine en Ukraine. Oui. Et c'était un sujet aussi dans les discussions, peut-être dans la campagne. De quelle manière? C'est-à-dire que il y a aujourd'hui des candidats ou des militants qui militent pour récupérer la Bukovine du Nord qui se trouve en Ukraine. Ouais. Ça va jusque-là?
Alors il y a beaucoup de sujets derrière ça, effectivement. Déjà peut-être à court terme, je dirais que ce qu'il y a là-bas, il y a vraiment il y a eu beaucoup de réfugiés ukrainiens au début de la guerre qui sont passés par Suceava, cette ville de Bukovine, et qui ensuite ont été réaiguillés, ont choisi de partir ailleurs, etc. Mais de fait, la question du réfugié ukrainien, les autorités, les Roumains, la Roumanie a trop aidé les réfugiés ukrainiens et aide plus les réfugiés ukrainiens, les enfants des réfugiés ukrainiens que les simples Roumains. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et l'autre sujet qui est vraiment, je crois, capital, c'est toutes les manifestations d'agriculteurs qu'il y a eu à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Je disais à 70 km, 80 km de là, avec vraiment, là, l'idée, c'est que au nom de l'Union européenne, la Roumanie a accepté de servir de hub pour exporter la production agricole de l'Ukraine. Et le problème, c'est que les Ukrainiens ne joueraient pas le jeu et en fait profiteraient de droits de douane absents et écouleraient en fait leur production en partie en Roumanie. Et du coup, la figure de l'agriculteur ukrainien devient aussi comme une espèce de...
En Roumanie.
En fait, la figure de l'agriculteur ukrainien devient comme un repoussoir, un épouvantail, et du coup, on va critiquer l'Ukraine encore plus. Ça, c'est vraiment un truc très fort sur comment on va stigmatiser les Ukrainiens, etc., dans cette zone, en tout cas de la part des étudiants, de ce député que j'ai rencontré d'extrême droite, etc. Et ensuite, effectivement, il y a ce à quoi vous faisiez allusion, et là, qui est encore autre chose sur le côté expansionniste. c'est que la Bucovine a été coupée en deux, et du coup, effectivement, chez certains, il y a l'idée qu'il faudrait renouer avec cette grande Roumanie qui incluait la Bucovine du Nord, qui est actuellement en Ukraine.
Alors, j'ai dit 1949 tout à l'heure, mais...
C'est 1940.
1940, ouais, pardon. Vous rencontrez, Ludovic Lamant, une étudiante qui s'appelle Caterina Majas, elle a 21 ans, alors elle est actuellement en Roumanie, mais elle a la nationalité, elle a la double nationalité, ouais. Elle est née en Ukraine, dans cette fameuse région où on trouve une grande communauté roumaine. Comment est-ce que elle perçoit à 21 ans, avec la double nationalité, ces tensions entre les deux pays?
Alors elle est extrêmement partagée, écartelée. Je crois que l'année qu'elle a vécue, là on parlait, elle s'est engagée très vite dans l'aide aux réfugiés ukrainiens qui arrivaient à Suceava, parce que justement elle a les deux nationalités. Elle travaillait comme traductrice dans des ONG, notamment pour l'aide des femmes ukrainiennes qui arrivent, etc. Et elle a vu progressivement les discours à l'université et dans son propre master, des étudiants qui prennent des positions anti-ukrainiennes qui la bousculent énormément. Donc c'est un peu... Alors moi, j'ai voulu passer une journée dans cette université parce que je trouvais que c'était vraiment un endroit passionnant pour comprendre un peu ce qui se passe. Avec, par ailleurs, en fait, vous avez un master où... C'est ça, on est dans une zone frontière où il y a un brassage incroyable de nationalités. Vous avez des Ukrainiens, vous avez des gens qui viennent de République de Moldavie pour étudier à Suceava. Enfin, c'est passionnant, quoi. Il y a un brassage. Et en même temps, là, on est dans un moment de crispation intense où typiquement, elle a pu se retrouver stigmatisée comme, justement, ukrainienne, etc. Donc, voilà, c'est un moment qui est... Voilà. Donc, elle est dans un état, pour le coup, ce qu'elle raconte dans l'article, c'est qu'elle est épuisée et qu'elle a passé une année de campagne extrêmement inquiète sur ce qui va se passer, etc.
Un autre aspect dont on n'a pas parlé dans la Bucovine, c'est aussi le poids des églises, de l'église orthodoxe, mais il y a aussi des églises protestantes qui se développent plus récemment. Quel poids éventuellement politique ces églises jouent aujourd'hui dans les débats en Roumanie?
Oui, alors... Je vais y aller prudemment parce que j'ai fait des demandes d'entretien avec des certains prêtres qui sont justement sur les réseaux, qui parlent et tout, et qui n'ont pas voulu me rencontrer. Ce qui revient tout le temps quand on parle à des universitaires à Bucarest ou des journalistes à Suceava, etc., c'est que évidemment le poids des églises orthodoxes et des évangélistes est très fort pour expliquer pourquoi ce territoire est extrêmement conservateur et a voté à l'extrême droite. C'est quelque chose d'assez ancien à Suceava. J'apporterai juste, il y a un universitaire qui s'appelle Christian Parvulescu, qui est professeur de sciences politiques à Bucarest, et il travaille aussi à Bruxelles au comité des régions. Et lui fait vraiment un parallèle, et ça m'a intéressé, mais je le dis de manière non documentée de mon côté, mais il fait vraiment le parallèle avec Bolsonaro et les évangélistes. Et la manière dont les évangélistes ont pu nourrir et servir la campagne de Bolsonaro, lui voit un effet un peu identique sur la poussée des pentecôtistes et Georgescu. Donc ça, je le dis, je soumets ça à son hypothèse. Et notamment avec l'idée qu'il a vraiment confisqué, pris l'intégralité du vote anti-vaccin, notamment pendant la pandémie, qui se recoupe un peu avec des positions des pentecôtistes, etc. Donc là, ça ouvre un peu des questions que moi, mes reportages ont fait qu'effleurer. Ça, c'est des choses qui sont très discutées là-bas sur l'impact des évangélistes, le vote des anti-vaccins, et qui ont fusionné un peu pour servir le vote Georgescu en novembre.
Et peut-être en miroir de cette ère conservatrice, Ludovic Lamant, vous vous êtes aussi rendu à Cluj, qui est la deuxième grande ville de Roumanie, et vous y avez rencontré Serban Savu, qui est un peintre qui a représenté la Roumanie à la Biennale de Venise. Et là, on est dans un univers totalement différent. La gentrification est en marche dans la ville de Cluj. Comment ce peintre, par exemple, perçoit-il la situation actuelle?
Eh ben, alors, comme beaucoup des gens qui travaillent dans les ONG, les artistes que j'ai pu rencontrer, là, ils se posent tous la question de partir, déjà, si Georgescu est élu. On parle quand même, par ailleurs, il y a différentes couleurs d'extrême droite et tout, on n'a peut-être pas assez insisté sur le fait que Georgescu, c'est vraiment l'aile la plus dure et la plus effrayante, un peu, de ces extrêmes droites. Donc, ils se posent la question de partir. Par ailleurs, ils ont quand même la sensation, ce que vous avez dit, d'être à Cluj dans un endroit qui, effectivement, est une ville qui a beaucoup profité, je pense, des fonds européens depuis l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne en 2007, et qui du coup se sent complètement en décalage avec les inégalités extrêmes en vérité qu'il peut y avoir dans lui. Son grand truc sur sa peinture, c'est de travailler sur la question de cette mémoire de la dictature qui n'a pas forcément été suffisamment transmise, le mouvement des légionnaires pendant l'entre-deux-guerres auquel fait référence parfois Georgescu, qui n'est plus suffisamment connu par la jeune génération et qui n'est pas enseigné à l'école. Il a tout un discours là-dessus dans l'article, dans l'entretien qu'on a fait ensemble, et qui lui semble être vraiment le point dur et le fait que l'école, l'éducation n'a pas suffisamment relayé la dangerosité, le travail historique sur cette période des légionnaires en Roumanie.
Et c'est aussi la mémoire des codes plutôt du réalisme socialiste que lui travaille dans ses créations. On n'a pas le temps de décrire ses toiles, mais je conseille aux auditeurs d'entrer Serban Savo dans un moteur de recherche avec une fonction image et pour se rendre compte de ce travail. Merci infiniment Ludovic Lamant pour ces reportages sur la Roumanie qui sont à lire donc sur le site de Mediapart. On fera un lien à la page de Culture Monde. Merci beaucoup d'être venu dans le retour de...